Jésus dit, je suis le pain de vie. Et quand Jésus dit, je suis, c'est Dieu, c'est en lui, c'est le Verbe éternellement, éternellement, avant la création, je suis le pain de vie. Donc, pour mon Père, je suis la nourriture éternelle. Le Père ne se nourrit que d'une seule chose, c'est de Dieu. Et quand Dieu dévore, c'est le Père. Et quand Dieu est dévoré, c'est le Verbe éternel de Dieu. Il est dévoré par la contemplation éternelle du Père. Et lorsque nous nous nourrissons d'un pain, nous, le pain est transformé par la digestion dans notre propre corps. Et on ne sait pas quelle est la partie, je dirais, de notre corps qui appartient à notre corps et à partir de notre corps qui appartient à celle du Christ. C'est pour ça que ma chair, c'est celle du Christ. Mais pour le Père qui dévore son Verbe, il en est exactement de même. Lorsque Jésus se donne sous la forme du pain, il veut faire comprendre par là qu'il donne tout. Parce que le pain, c'est une nourriture substantielle. Lorsque je mange du pain, il n'y a plus de pain. Tout est broyé, tout est donné. Et la substance du pain est transformée, assimilée elle-même, est transformée dans les cellules de notre propre corps. De même pour le Verbe éternel de Dieu, il se livre totalement. Et il est littéralement liquéfié, fondu, il expire, il est pulvérisé dans la mendication éternelle du Père. Alors, lorsque nous avons communié nous-mêmes, on ne sait plus exactement si c'est nous qui avons mangé le corps du Christ ou si c'est le Christ qui nous a mangé. Si nous regardons bien, l'herbe est mangée par la vache. Et la vache est mangée par l'homme. Plus on augmente dans la dignité du vivant, plus la nourriture est assimilée par celui du vivant supérieur. Si bien quand nous mangeons le corps de Dieu, qui est dévoré par l'autre? C'est extraordinaire de voir ça. De même pour le Père lorsqu'il dévore et son Verbe éternel, lorsqu'il le contemple, le Verbe est pulvérisé, il a tout donné. Et le Père, lui aussi, est complètement pris. Il n'y a plus ni Père ni Fils, il n'y a plus qu'une vie commune. Et à partir de cette mendication éternelle, ce jaillissement de vie qu'on appelle l'Esprit Saint, le mystère du pain de vie est une révélation sur le mystère de la Très Sainte Trinité. C'est le moyen de crever le plafond de la connaissance de Dieu pour rentrer dans la menducation distincte des trois personnes. Voici comment l'incarnation et la très sainte Trinité se rejoignent. Est-ce que tu appelles ça? Telle réaction, on fait telle réaction sur du sang mort d'homme, telle réaction sur le sang vivant, voyez? Eh bien, sur ce sang-là, ça fait une réaction, par exemple, supposons que ça fait vert quand le sang est encore frais et vivant, la réaction du tournesol est rouge lorsque le sang est mort, supposons, n'est-ce pas? Eh bien, là, pourtant, le sang, il est complètement... Ça donne la même réaction que si c'était du sang vivant. Exactement comme à Lanciano aussi, où donc j'expliquais cette histoire que le sang, comme vous voyez ici, est transformé en caillot. Là aussi, vous voyez, c'est les ampoules de droite. Le sang du Christ s'est transformé en caillot sanguin, vous voyez, des petites poules. Et pendant des siècles et des siècles, il y avait une expertise internationale qui se faisait à partir de balances extrêmement sensibles. On pesait chacune des 5 petites boules de caillot de sang. Et lorsque... ça pesait je ne sais plus combien de grammes, 4 grammes, peu importe. Lorsqu'on en mettait une, ça pesait ce poids-là. Lorsqu'on en mettait deux, ça pesait toujours le même poids. Lorsqu'on mettait les cinq, ça pesait le même poids. Comme pour expliquer que dans la moindre parcelle de l'Eucharistie, il y a tout le sang du Christ. Il y a toute la très sainte Trinité. Il y a toute la gloire de Dieu. Cinq grammes. En cinq cailloux. C'est magnifique. En même temps, petite catéchèse doctrinale pour le catéchisme. Lorsque nous allons transsubstancier le corps et le sang du Christ, il y aura la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Est-ce que, posez-vous la question et méditez pour savoir, est-ce que dans le miracle eucharistique qui est présent ici, est-ce qu'il y a encore la présence réelle? Autrement dit, est-ce que vous pouvez adorer, lorsque vous êtes ici devant le miracle eucharistique, est-ce que vous pouvez adorer la présence réelle de Jésus? Ou est-ce que vous devez orienter, j'allais dire, votre adoration dans le tabernacle qui est en bas, ou bien dans le miracle eucharistique qui est en haut? Qui peut répondre à cette question très simple? Le Christ est présent réellement dans le tabernacle, exactement comme pour nous. Lorsque nous mangeons le corps et buvons le sang du Christ, la présence réelle demeure présence réelle tant que les accidents du pain et du vin sont présents en notre âme. Mais ici, par le miracle, les accidents du pain et du vin ont été pulvérisés. Il n'y a plus de présence réelle, il y a seulement la présence d'un miracle. Donc présence d'une grâce actuelle et pas présence d'une grâce habituelle et substantielle. Oui, ça c'est... Petite distinction très importante, très intéressante, pour montrer que la foi pénètre beaucoup plus profondément et crève tous les plafonds par rapport aux choses privées, révélations privées ou miracles. Les miracles, on s'en fiche. Les miracles n'ont jamais converti personne. Ils nous aident, on est bien contents, on est très heureux. Et c'est pourquoi nous allons nous concentrer sur le sacrifice du Christ. Nous allons nous lever en chantant un chant de louange.